Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Non, bah, la chasse aux cailloux quand t'étais petite.
J'adore les cailloux, j'ai plein de cailloux.
Mais c'est ta part de
faire ça. Ça se voit comme ça.
Non, je sais pas.
Bonjour.
Ok, Ariane est on fire.
Ouais, bah sinon, sinon je vais m'endormir, donc j'ai pas le choix.
Bonjour, je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste chez Mademoiselle et je vais présenter ce podcast pour la toute première fois, évidemment.
Oh,
comme chaque fois.
Félicitations, la toute première
merci,
fois, incroyable.
Merci, j'attends ma médaille en chocolat, du sirop de violette en remerciement.
T'as déjà eu des fleurs, Anthony.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je ne vais pas citer la personne parce que sinon on va croire que c'est un partenariat déguisé, donc merci à la personne. Voilà. Mais Ariane a dit récemment qu'il sentait très bon, ce n'était même pas grâce à ça.
Oui.
Mais merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Je te complimente pas assez les gens sur leurs odeurs corporelles.
Odorat en ce moment, c'est un truc de dingue.
Ah
c'est
bon
la deuxième fois qu'on parle d'odeur et je sens que dalle.
Ah ouais
parce qu'il y a un chien qui a fait caca dans la rédaction.
Ah oui,
je me demandais si on allait le dire. C'est marrant ça.
Il faut sachez que Apollo, le chien d'un collègue de Numérama, qui est un média du groupe Humanoïde. Donc, Mademoiselle appartient à un groupe qui s'appelle Humanoïde. Et donc Numérama, c'est nos collègues d'étage. On partage l'open space avec Numérama. Et donc dans cette équipe, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas, qui a un chien mais gigantissime. Hein, il fait à peu près ma taille, ouais. Donc 1m80. taille mannequin et c'est un chien sublime qui est très très timide.
Il est toujours en train de se comparer au chien là ou pas?
Non, pas du tout. Mais non, le chien est très très, il a un très beau pelage et ce chien se balade mais en silence. Donc à chaque fois il me fait sursauter.
C'est vrai, il fait aucun bruit.
Oui, d'un coup tu te retournes, il est en train de regarder par la fenêtre comme ça là.
Oh non, il est trop bizarre.
Ouais, il fait un peu film d'horreur parfois. Mais et donc en fait le chien est venu du côté de chez Mademoiselle et il a lâché un truc que je n'ai pas osé regarder.
Moi non plus, j'ai pas osé.
Moi, j'ai pas vu. J'ai juste vu la trace et on m'a dit que. Mais...
Ah bah, apparemment, c'était un double. Enfin bref, qu'importe. On vous épargne les détails. Ça fait 30 secondes que le podcast a commencé. On parle de caca. Bienvenue dans LMK. Tout ça pour dire que ça ne sent plus dans l'open space. Nous sommes ravis. Merci au pchipchit d'Inès, aux yeux l'essentiel. Ariane, comment vas-tu?
Oui. Bonjour, moi, écoutez, ça va. Un peu crevé. J'ai l'impression que j'arrive pas bien à me reposer en ce moment, mais. Mais ça va, j'essaye de mettre un peu d'énergie pour me réveiller justement, parce que sinon là, je vais m'endormir.
Je comprends, le dynamisme s'auto-entretient finalement. Plus tu cherches à être dynamique, plus tu peux être dynamique potentiellement.
Exactement.
Marie-Stéphanie, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu es comme une dynamo?
Est-ce que je suis comme
une dynamo? Genre, plus tu donnes de l'énergie.
J'ai compris comme une dynamo.
Oui, alors guimauve, là, pour le coup, oui, effectivement. Dynamo, non. Non, là, je suis un peu low energy aussi. Mais ça va. J'ai déménagé aujourd'hui.
Ah oui.
Aujourd'hui, genre.
Ouais. Enfin, ouais, du intense. Coup, pas moi, mais.
Oui. J'ai fait déménager. Mais,
ouais, j'ai fait déménager ma maison.
À partir de ce soir, donc, tu ne dors plus
voilà.
Dans ton ancienne
exactement.
Maison.
Exactement. Donc, en vrai, je suis très contente.
Super.
Ravie.
C'est genre un nouveau départ qui t'enthousiasme.
Ouais, grave.
T'aimes bien les changements?
J'ai l'impression d'être chez le psy, là.
Pardon. Vraiment,
un coup. Non, mais ouais, franchement, oui. Et ce que je disais à une pote ce matin, je disais j'ai l'impression d'être dans une phase de bon, parce que les auditeurs de LMK
renouveau.
Ne savent pas, et il faut que je le dise à un moment donné puisque je vais disparaître du podcast, c'est que je suis
et...
enceinte voilà. Et je suis à un peu plus de 7 mois de grossesse et donc forcément c'est aussi une phase qui est une phase de changement hein, évidemment,
bah oui.
À plein de niveaux différents et ouais, j'aime le changement et j'aime déménager.
Eh bien, félicitations pour les deux choses. voilà, félicitations on tape, au micro. Voilà, on l'avait déjà dit en privé, évidemment. C'était une surprise qu'on ne pouvait plus tenir. Voilà, enfin, je déteste tenir des secrets, en fait. Ça ne dure jamais longtemps avec
moi. Ah, moi non plus, c'est horrible. Ne me confiez jamais aucun secret.
Pareil, vraiment. Et pourtant, plein de gens me confient des trucs. Toi, est-ce que tu as
ah
une tête qui inspire la confession?
Oui, les gens me parlent beaucoup. Et à chaque fois, alors je sais pas combien de fois dans ma vie j'ai entendu, enfin je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais bon j'ai envie de te parler quoi.
Ah, genre,
et après, et en fait il faut pas parce que moi le problème c'est qu'après bah, je le dis aux gens quoi.
Mmh.
J'arrive pas à tenir les secrets.
Toi Marie, Stéphanie, est-ce que tu tiens bien les secrets?
Es-tu
une tombe?
Une tombe, ouais vraiment.
Ah ouais.
Ah
ouais.
Ah, cimetière.
Ouais. Ah vraiment, je suis une vraie tombe quoi. Et c'est pour ça que du coup aussi les gens se confient à moi.
Mmh.
Enfin, mes potes viennent me dire des trucs et tu les gardes pour toi. Bah oui, enfin, évidemment. Et qui veux-tu que je dise ?
Est-ce que
je déteste qu'on dise les secrets pour le coup.
Ouais. Mais en fait, le truc c'est que j'arrive à jauger si c'est des secrets qui vraiment doivent être gardés. Les secrets qui vraiment doivent être gardés, je les garde.
Oui.
Mais si c'est des trucs bon voilà, où c'est un peu secret mais en vrai on s'en bat les steaks. Ou alors en
si
fait
c'est un
ou
potin,
alors
je
vais qu'il avait pas entendu cette expression d'ailleurs, on s'en bat les steaks. Dites-nous dans LMK, dites-nous dans les commentaires pardon si pour vous c'est vintage ou pas. Vas-y, poursuis.
Je me décharge en fait en racontant les choses qu'on me confie à des gens qui n'ont aucun rapport avec les gens qui me racontent leurs trucs ou les situations en question. Donc en fait, même si je le dis, ça n'aura aucun impact sur le secret. Enfin voilà.
Tu
en
mets
soi,
pas
donc,
le secret en péril. Quoi.
Voilà, exactement.
C'est bien, vous êtes très mature, contrairement à moi. Si je suis tout, ça fait une tombe. Je suis une maternité de. On me raconte un truc et hop, j'accouche. Voilà, je divulgue les.
Mais tes amis le savent.
Mes amis le savent et me confient quand même énormément de choses, ouais. Ce qui est dramatique, car ça me revient toujours dans la gueule en boomerang. Vraiment, je raconte. On me confie un truc qui, ah oui, d'accord, ok. Je le répète à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre va le dire à la source en disant, Anthony m'a dit que non, non, non. Et après, je me fais engueuler, voilà. Donc, mais... ne me confiez jamais rien.
En même temps, moi, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de secrets. Je veux dire, je suis assez peu secrète, je me dévoile, j'ai pas de problème.
La preuve LMK.
La preuve oui, LMK. Et du coup, c'est vrai que le concept de secret pour moi, bon, sauf si, encore une fois, sauf si je sens que c'est quelque chose de, voilà, où ça met quelque chose en péril ou je sais pas quoi, là, évidemment, je vais le garder, mais c'est vrai que le concept de secret, il n'existe pas chez moi, en ma personne.
Je compatis, je comprends, moi aussi, mais en fait, je trouve que parler peut être hyper thérapeutique en fait. Et
ah
donc
oui.
Si tu as ressens le besoin de confier un secret,
ouais.
C'est que ça te fait du bien d'en parler. Ouais. Et moi aussi j'ai besoin de me faire du bien, du coup je le répète. Voilà. Donc conclusion, parler c'est guérir. Voilà.
Quelle belle conclusion.
Et bon, on va enchaîner sur cette introduction expéditive avec la question de la semaine. Ariane, quel métier, non pardon, quel artisanat es-tu ?
Alors, quel artisanat suis-je ? Je vais commencer par dire que je suis obsédée par les cailloux.
Pardon.
Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais dit, je pense,
okay.
Dans le cas.
Non, c'est la chasse aux cailloux quand t'étais petite.
J'adore
toi.
Les cailloux, j'ai plein de cailloux.
Mais si t'as peur des feuilles
mortes, ça se voit comme ça.
Non, je sais pas. Sous les feuilles de l'automne mouillées dans la pluie.
Exactement ce que je disais, genre, comment tu fais pour gérer ta passion des cailloux alors,
voilà.
Et avec ta phobie des feuilles mortes.
Mais les beaux cailloux, ils sont pas sous les feuilles mortes, hein. Ils sont genre à plat.
Comment tu peux savoir, t'es jamais la regardée.
Mais non, enfin je veux dire, dans les vieux bacs à arbres de Paris, là, il n'y a pas des beaux cailloux, hein, ça je vous le dis.
Mais genre à la campagne, il n'y a pas des feuilles mortes par terre.
Mais si,
et des
mais...
cailloux dessous.
Mais ils ne sont pas forcément très beaux les cailloux. Alors si, sachez que, bon je vous l'ai déjà dit, mon père a une maison de campagne, coming out bourgeoisie.
Qui le cru ?
Vraiment. Et un jour avec mes sœurs en fouillant dans la terre, on a trouvé des fossiles.
Mais attends. Quel âge avais-tu ? Quel âge aviez-vous ?
J'avais une dizaine d'années, je pense.
Okay.
Des fossiles ! C'est ouf !
Des vrais ?
Ouais ! Des fossiles
de, vous
de,
des vrais
de
fossiles
coquillages. Enfin, on les a montrés à nos parents et ils nous ont dit, ouais, quand même, ça va.
Ah, mais vous étiez des
fossiles,
enfants.
Quoi. Ouais.
Et c'était pas
qu'ils vous ont menti pour faire.
Merde ! Bah, en tout cas, il y avait sur de la pierre qui avait l'air un peu calcaire, donc en vrai, c'est possible.
Une forme en creux.
Ouais, une forme en creux, vraiment, et en spirale.
Ouais.
Comme une coquille de coquillage, quoi.
Comme un cliché de fossile.
Voilà, comme un cliché de fossile, exactement. Après, c'en était un, c'en était pas un, je sais pas, mais en tout cas, je me rappelle que ça m'avait vachement enthousiasmée. Parce que j'aime bien les pierres. Et du coup, j'ai plein de pierres, je ramène des pierres de quand je vais à la plage, quand je trouve des belles pierres et tout. Pendant des années, malheureusement, je l'ai perdue, j'en suis très triste. J'avais dans un de mes manteaux d'hiver une pierre qui, quand je la mettais entre mes doigts, mon index et mon majeur, faisait exactement la forme. De comment dire,
elle était ronde quoi,
non elle était un peu creusée et du coup je
ouais.
pouvais la
la
du
pincer
coup, je la... ouais je pouvais la pincer comme une sorte de bague quoi, mais bon ouais.
Tout en ayant les doigts serrés
du
tout
coup,
en ayant les doigts,
serrés comme ça
et ben je mettais ma
journée.
Main dans ma poche et je mettais ma pierre entre les doigts
ouais.
Et je sais pas, ça me rassurait un peu
ouais.
Je la caressais, elle était toute douce, c'était comme un galet quoi.
Tu te sentais complète?
Ouais, je me sentais complète.
Ça comblait un vide.
Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je faisais ça. Oh là là, je suis en train de trop de raconter ma vie là. Je faisais ça avec mes tétines quand j'étais petite. Je mettais la tétine entre mes deux doigts.
Comment tu peux t'en souvenir ?
Je m'en souviens hyper bien. Je m'endormais comme ça.
Mais t'avais ta tétine jusqu'à quel âge ?
Elle a encore une tétine.
Pour dormir, je pense que maternelle.
Ok.
Ah oui ?
Ouais.
T'as des souvenirs tôt du coup quand même.
Mais je m'en souviens parce que j'arrivais pas à dormir sans et j'avais même plusieurs tétines, une pour en mettre dans pour la mettre dans ma bouche et l'autre pour la mettre entre mes doigts. Bref, ça n'a rien à voir avec mon métier d'art, puisque comme je disais, j'adore les cailloux et j'adore les pierres. Donc je pense que je serais tailleuse de pierre, ou plutôt, comme on dit dans le jargon, je serais lapidaire. C'est ça le mot, pour dire qu'on taille des pierres précieuses.
Ouais. Lapidaire.
Lapidaire. Et j'adore les pierres.
Lapidaire, voilà. Mais pas pour
oui.
ça.
Oui, non, mais c'est autre chose. J'adore les pierres précieuses. J'adore aller voir des pierres précieuses. Je sais pas combien de fois je suis allée au musée de minéralogie là du jardin des plantes. C'est
sublime. J'en ai parlé 3 fois dans le MK, je crois.
Ah ouais. Oh, merde. En plus, c'est gratuit parce que je suis jeune.
Bah, c'est bon. Hein.
Arrête de te la péter, quoi. C'est gratuit parce que je suis jeune.
Voilà. Moins de 26 ans. Et vraiment, c'est super. Et ce qui est encore mieux là-bas, c'est qu'en fait, il n'y a jamais personne. Parce que visiblement, personne ne s'intéresse aux cailloux et aux pierres. Donc moi, quand j'étais à Sensier, à la fac, là, à Paris 3.
C'est juste à côté.
C'est juste à côté. Oui. Et donc, quand j'avais des heures de trou, paf, j'allais au musée. C'était trop bien.
Moi aussi. Et en fait, comme je suis un incorrigible romantique qui se cache derrière un cœur de pierre.
Ouais.
Eh bien, j'attendais de croiser l'amour de ma vie, et ça n'est jamais arrivé.
Bah, il n'y a jamais personne, donc c'est sûr que c'est bon. Ça,
mais justement, je me dis, si on se croise là, c'est qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre.
Ça, c'est sûr.
Ah, bah oui.
Et du coup, je n'ai pas l'âme sœur. Voilà. T'es née en quel mois, Ariane ?
Novembre.
C'est quoi ta période de naissance, tu sais, de tête ?
Ah putain, j'avais regardé, mais je sais
plus. Je l'ai sous les yeux.
C'est quoi ?
La citrine.
Ah oui, c'est jaune, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, ouais. Écoutez, bon, j'ai rien à dire, aucune info à donner là-dessus. J'aime bien la citrine, c'est joli. Mais tu vois, le truc, c'est que j'adore les pierres et tout, mais je n'en porte pas du tout. J'aime pas forcément les bijoux avec des pierres. Au contraire, j'aime plutôt genre l'argent martelé, les trucs comme ça, mais sans pierres précieuses. Mais le travail des pierres et globalement l'esthétique de la pierre, j'adore ça. Et à la fois, bah, comme je l'ai déjà dit, par exemple, quand je vous avais raconté que je faisais des maquettes, j'adore les travaux minutieux. Donc je pense que le fait de... Bon, je le ferai probablement jamais, hein, mais le fait de tailler les pierres en fonction, comment dire, de la forme et de la taille de la pierre brute, arriver à choisir comment la tailler pour la sublimer. Voilà, je pense que ça me parlerait, donc je serais lapidaire.
J'adore cette information et petite parenthèse, j'avais interviewé 2 créatrices de bijoux pour le JT Mode, mon émission mensuelle sur Twitch sur la mode, pour Mademoiselle, notamment donc Kitty Martin qui a sa marque du même nom et Elia Pradel qui a une marque qui s'appelle Anicet, A-N-I-C-E-T. Et Elia Pradel, pardon, donne parfois des ateliers pour apprendre à... En fait, dans les deux cas, elles font de l'upcycling de bijoux.
Ouais.
Donc elles partent de bijoux anciens que les gens ne portent plus ou dont ils se sont lassés, etc. Et pour les démonter, les déconstruire, grosso modo, et recréer des bijoux nouveaux à partir de cette matière existante. Et Elia Pradel, avec sa marque Anicet, fait parfois des ateliers. Donc si un jour tu veux y aller, en plus souvent, je crois que c'est gratuit souvent.
Wow.
À un moment, elle en faisait en résidence à le 19M, qui est la maison des métiers d'art de Chanel. Et c'était gratuit. Donc vraiment, abonnez-vous à son Instagram si un jour vous voulez avoir les infos là-dessus. Parce
c'est
que vraiment, c'est incroyable.
Tu peux redonner le nom ?
Alors c'est Anicet, A-N-I-C-E-T. Si vous la cherchez sur Instagram, vous allez la trouver facilement. Anicet Bijoux. Et la créatrice de la marque s'appelle Elia Pradel. C'est une Guadeloupéenne. Big up les Antilles françaises. Marie-Stéphanie, c'est quoi ton mois de naissance déjà ?
Septembre.
Ok, tu connais ta pierre de naissance ?
Non, pas du tout.
C'est le saphir.
Ah, ouais. Oh, pas
génial ! Ok, bah ma bague de fiançailles est un saphir.
Ah !
Oh,
voilà,
peut-être
ça tombe
que c'est
bien.
Fait exprès.
Je ne savais pas. Oh, je pense pas que mon mec soit renseigné à ce point. Vraiment pas.
On sait jamais, parfois on est surprise.
Moi, je le trouve très romantique quand il vient à mes cours de pole dance. Mais bref, passons. Alors, je voudrais également vous dire que si vous voulez connaître votre pierre de naissance, j'ai écrit un article là-dessus sur Mademoiselle, voilà, mademoiselle.com.
Non mais incroyable, pourquoi j'ai pas lu cet article ?
Il est sorti le 7 mai 2023, le jour de mon anniversaire.
Eh bien
évidemment. Donc je suis né le 7 mai 2002,
est-ce que c'est un hasard ?
Comme vous le savez. Oui, c'est un hasard pour totalement fortuit.
Le prochain atelier de upcycling bijoux par Anicet est le 3 mars.
Oh ! Donc j'ai vraiment, je me suis même pas renseignée, j'ai dit ça comme ça.
Ouais, voilà.
J'adore.
Si ça vous intéresse, je ne serai pas là, je serai à Marseille, mais pour la prochaine fois, je regarderai.
Eh bien, si vous êtes une créatrice de bijoux qui donne des ateliers à Marseille, slidez dans nos DM. Merci.
Voilà.
Bisous. Voilà. Marie-Stéphanie, quel artisanat serais-tu ?
Alors, question très compliquée. Vraiment, parce que je trouve qu'il y a un grand nombre de métiers d'art qui sont remarquables par leurs spécificités respectives. Mais je pense que je serais soit brodeuse, soit... ce serait plutôt... Je me tournerais plutôt vers le tissage. Parce que c'est un médium qui me touche déjà en tant que on va dire consommatrice de. Je crois que je vous avais déjà parlé en plus dans LMK de Cécile David-Dovici ici, qui est brodeuse. Oui. Et qui fait vraiment, enfin, littéralement, c'est des peintures en broderie, quoi. Enfin, c'est absolument hallucinant, tellement c'est beau. Et j'aime l'histoire, en fait, autour de la broderie et du tissage, qui était quand même historiquement un métier, enfin, un art, qui n'était pas un art au début, mais c'était les seuls cours, on va dire, artistiques dans lesquels les femmes pouvaient s'inscrire pendant très longtemps. Et c'était considéré comme des études dans lesquelles les femmes, vers lesquelles les femmes se dirigeaient le temps de trouver un mari. C'était vraiment, on l'inscrit dans des cours de tissage, mais de toute façon, elle va se marier et puis ensuite elle arrêtera. Et voilà. Alors qu'en fait, il y a eu dans l'histoire énormément de femmes tisseuses, enfin de femmes qui se sont emparées du tissage pour en faire des choses extraordinaires. Le Musée d'Art Moderne de Paris l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, c'était 2022 ou 2023, avait consacré une exposition à Joseph et Annie Albers. Qui était un couple d'artistes de l'école du Bauhaus. Et alors, je vous invite à aller voir le travail d'Annie Albers, qui a fait partie de ces femmes qui, justement, ont été les premières à intégrer les cours de tissage de cette école, cette grande école du Bauhaus, qui a, comme toutes les autres femmes de cette époque, a été invisibilisée, et donc le travail a été invisibilisé. Et en fait, ce que je trouve assez chouette, c'est à quel point aujourd'hui les femmes se sont emparées de ce médium pour en faire quelque chose de vraiment visible. Et puisque on parle, tu parlais du 19M, enfin aujourd'hui toutes les grandes maisons de luxe travaillent avec des femmes qui sont brodeuses, tisseuses, dentelières, et qui font des choses absolument extraordinaires. Donc je trouve ça génial, cette opposition entre comment historiquement les femmes ont été complètement invisibilisées, comment on les a renvoyées vers cette voie-là en se disant c'est pas de l'art. On disait c'est pas de l'art, c'est pas la grande peinture que pratiquaient les hommes à l'époque. C'est une petite occupation artisanale, entre guillemets, puisqu'il y avait cette opposition ferme et franche entre l'art et l'artisanat. Une petite occupation pour des femmes en attendant qu'elles se marient. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte à quel point les femmes, à cette époque, se sont emparées de ce médium-là pour faire des choses extraordinaires. Je pense aussi à Sonia Delaunay, qui, à l'époque, c'était vraiment... si vous ne la connaissez pas, elle a longtemps été considérée comme la femme de Robert Delaunay, grand peintre, et elle, en fait, c'était un peu la ménagère dont on parlait pas trop à l'époque, alors qu'elle faisait des choses absolument extraordinaires. Et aujourd'hui, on parle à nouveau et on met à nouveau en valeur ces travaux-là et ces artistes-là. Et pourquoi, du coup, la broderie et le tissage ? Parce que vraiment, je trouve que c'est assez extraordinaire ce que font toutes les femmes aujourd'hui qui pratiquent ce médium-là, et à quel point elles s'en sont emparées pour faire quelque chose de vraiment... je déteste ce mot, mais c'est badass pour moi. C'est un peu un beau pied de nez à tous ces critiques et tous ces mecs de l'époque qui disaient « on s'en fout, c'est un truc de meuf, et c'est pas suffisamment
grandiose.
Légitime. » Redis ?
Grandiose ?
Ouais, c'est pas grandiose, c'est pas... ouais, c'est pas de l'art. En gros, c'est juste une occupation comme une autre. Alors qu'en
oui,
fait,
c'est un passe-temps et pas de l'art.
Ouais, voilà. Okay. C'est ça.
Et dans... enfin, peut-être moins dans le côté de lapidaire, parce que tu peux aussi faire des choses énormes avec des pierres, parce que c'est pas que des pierres précieuses, en fait. Mais il y a un truc aussi de tout ce qui est minutieux et minorisé, j'ai l'impression.
Mais oui, complètement. Et justement, je parlais de Annie Albers tout à l'heure. Si vous allez voir son travail... je ne sais pas s'il est encore visible ou pas dans certains musées, potentiellement au Musée d'Art Moderne, je pense. Son travail, c'est d'une minutie extraordinaire. Enfin, Cécile David-Dovici, dont je parlais il y a quelques épisodes, elle a des doigts de fée. Enfin, il faut une patience et un talent pour faire ce que ces femmes font. Donc, c'est assez chouette. Et toi, Anthony, tu serais quoi ?
En tout cas, hyper intéressé et fasciné par vos deux réponses. Et je pense que, mais je trouve ça assez intéressant que les deux métiers d'art choisis, enfin, les deux artisanats soient liés à la, enfin, que la mode s'en empare énormément. En tout cas, c'est pas lié que à la mode, évidemment, mais je serais la plumasserie.
Évidemment. Ah,
mais oui.
Alors.
Parle-nous de ton pantalon avec des plumes.
Je crois qu'on a déjà parlé dans
oui,
la
vidéo.
J'adore depuis très, très, très longtemps les plumes. Évidemment, je suis un pan, j'ai un gros souci avec ça, je me passe ma vie à me pavaner dans des vêtements loufoques. Depuis que je suis tout petit, vraiment, mes premiers mensonges étaient des mensonges, mais énormes par rapport à des vêtements. J'ai raconté des mythos, je m'en souvenais pas, mais récemment, mon meilleur ami me le rappelait. Je faisais croire que j'avais des vêtements brodés en fil d'or et tout, machin.
Hilarant.
Mais je sais pas pour qui me prenait, bref. Le Petit Prince. Et donc, j'ai grandi et je me suis dit que, bon, l'or, c'était un peu trop cher pour moi, mais les plumes, ce serait ravissant. Et donc, j'ai commencé à m'acheter des vêtements avec des plumes. Et quelle n'a pas été la révolution qu'une maison a faite, une marque qui s'appelle Maison La Paire, je crois, mais qui a mis la clé sous la porte, hein, je vous dis ça, c'est pas du tout sponsorisé. Juste à un moment, elle a sorti des vêtements dont les plumes étaient amovibles, et ça a été la révolution pour moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est génial, c'est-à-dire que je pourrais enfin laver facilement mes vêtements avec des plumes, parce que normalement, c'est hyper compliqué. Mais à l'époque, j'étais déjà fan de cabaret, et du coup, j'avais déjà eu des tips de personnes qui portent des plumes pour, comme costume de scène, pour leur redonner du gonflant ou les désodoriser, des choses comme ça, parce qu'en fait, tu peux pas les mettre à la machine, quoi. Et en fait, le plus simple, c'est un petit coup de vapeur, ça désinfecte et ça redonne du gonflant. Et donc, jusque-là, j'étais en train de galérer avec mes machines à vapeur pour redonner du gonflant à mes plumes. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est super, je vais juste déclipser mes plumes avant de laver mes t-shirts, mes sweats et mes pulls.
Qui prouve que t'as vraiment des plumes absolument de partout.
C'est ça. Mais depuis peu, j'ai maintenant un pantalon à plumes. Ça, je n'avais pas encore. Et c'est un Jeanne Friot. Jeanne Friot, créatrice lesbienne que j'adore. Que j'ai payé de ma poche, évidemment.
Qui est trop canon. Franchement,
qui est très canon, mais qui est très fragile. Mais heureusement, comme c'est du fabriqué en France et même à Paris, quand vous avez un souci, vous allez voir son atelier et on vous le répare. Donc, je l'ai fait replumer déjà deux fois en 2 ans, je crois, mais c'est parce que vraiment je le mets dans des conditions extrêmes, je vais en boîte avec, quoi.
Et oui,
ce que je suis pas censé faire.
Niveau entretien, ça doit quand même être compliqué.
Bah, en vrai, on lave trop nos vêtements, je ferai un article là-dessus, un de ces quatre, mais si vous ne lavez pas votre jean, vous n'allez pas mourir. Ouais. Vous n'aurez pas des jambes qui vont être rongées par l'acide chlorhydrique ou je sais pas quoi. Enfin, vous n'allez pas développer des moisissures sur votre pantalon.
Vous n'allez pas moisir, en somme.
Vous n'allez pas moisir. Vous n'allez pas puer non plus, surtout si vous pensez à l'aérer régulièrement. Là, c'est un pantalon à plumes, donc il y a encore moins d'intérêt à le laver parce que ce serait vraiment très compliqué. Pour le coup, les plumes ne sont pas amovibles, elles sont brodées à la main. C'est des plumes d'autruche qui ont été teintes à la main, upcyclées et tout. Et voilà, donc c'est un pantalon que je trouve sublime, mais les plumes en général, je trouve ça absolument génial. Et pas que en vêtements, aussi en décoration. Il y a des fresques qu'on peut faire avec des plumes que je trouve extraordinaires. Il y a plein d'œuvres qu'on peut faire
ça
en plumes.
J'imagine qu'il y a des plumes partout chez toi maintenant.
Il y a des plumes partout chez moi. En effet, une fois j'avais sous-loué un appartement en Airbnb. J'avais sous-loué un appartement non pas par Airbnb. Il m'arrivait des histoires folles dans cet appart, mais je vous raconterai ça dans un autre épisode. Et en fait, la personne, j'avais flashé sur son appart parce que c'était décoré comme chez moi, parce qu'il y avait des plumes au mur. Et je me suis dit, mon Dieu, mais...
Wow.
Enfin, en vrai, je crois que c'est un goût assez banal. Mais enfin, pas si banal que ça, mais je veux dire, il y a plein de gens qui ont des décorations de ce type-là. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas que moi qui ai des plumes de pan partout et des décorations en guise de... Enfin, des tableaux de plumes sur les murs, quoi. Moi, mes plumes de pan, elles sont dans des vases par terre. Et j'ai des décorations sur les murs avec des plumes. Et cette personne avait la même chose. Et quand je suis allé chez elle, je me suis dit, mon Dieu, mais on dirait mon appart. On avait le même goût en matière de livres et tout. Et on avait aussi les mêmes goûts en matière de mec. Bref, c'est une autre
Allez
histoire.
Ah Mais j'en profite pour faire une petite incursion. Je pense que tu dois connaître, mais ou pas. Et dans ce cas, si tu ne connais pas, tant mieux, parce que ça te permettra de découvrir une artiste plumassière qui s'appelle Janaina Milero.
Non, je connais pas, non. Je crois.
Elle a travaillé pour la mode et notamment sur des défilés. Là, je vois sur son site Dior Haute Couture Paris 2020. Mais moi, je suis tombée sur le profil de cette femme qui fait un travail de dingue, Janaina Milero.
Comment tu l'écris ?
Janaina, J-A-N-A-I-N-A et Milero, M-I-L-H-E-I-R-O. Et en fait, il y a quelques années, quand je bossais pour le L, j'avais pris part au prix des artisanes qui existe depuis 4 ans, je crois, aujourd'hui, et qui récompense chaque année des artisanes dans 4... je ne suis pas en train de faire de la pub pour le L, mais c'est plus pour dire que c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Janaina Milero. Elle avait été récompensée donc, dans les métiers d'art. Et donc, il y a un petit portrait, le elle, c'était en partenariat avec LVMH, avait fait une vidéo reportage sur elle dans son atelier. Et c'est vraiment magnifique. Enfin, je sais pas comment décrire autrement son taf qu'en disant que c'est juste magnifique. Mm-hmm. Elle avait fait, là, je vois sur son site aussi toute la vitrine de la boutique Guerlain des Champs, je crois. C'est vraiment, c'est de l'art. C'est à la frontière dans certaines de ses créations avec la mode, mais c'est surtout de l'art, quoi. Enfin, c'est juste sublime. Et en voyant son travail, je comprends, Anthony, quand tu dis que t'as envie d'avoir des plumes de partout. Parce que, non, mais moi, au début, le métier de plumassière, je connaissais pas du tout.
Oui.
Au début, le métier de plumassière, je connaissais pas du tout. Et vraiment, je me disais, attends, travailler la plume, enfin, c'est quoi, tu vois
Tu te colles des plumes, quoi.
Ouais, tu te colles des plumes, tu te fais un chapeau d'indien, comme quand t'étais en CM2 pour le carnaval. Mais en fait, non, enfin, c'est vraiment... je dis ça pour que les gens se rendent vraiment compte. T'as cité des noms, il faut aller regarder et taper les noms que t'as cités, mais vraiment, la plumasserie, c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent, en fait. C'est pas juste t'amuser avec des plumes, quoi.
Ouais, totalement. Et en fait, je viens de voir le compte Instagram de Janaina Milero, et en fait, j'avais liké plein de photos déjà par le passé. mais j'avais interviewé un artiste plumassier que j'adore, qui s'appelle Maxime Leroy, à l'époque où je bossais avec Horace. Et en fait, Maxime Leroy, c'est un plumassier français qui travaille beaucoup sur les costumes de scène pour le cabaret, d'ailleurs. Parce que ma vie est en cercle. Et il a une dégaine de rockstar. Enfin, c'est un mec qui a le crâne complètement rasé, qui a des tatouages partout dans le cou et sur les mains et sur le corps. Et qui roule en Harley Davidson et en voiture vintage, des grosses carrosseries et tout. Et il travaille la plume avec une telle minutie. Le contraste est juste dingue. Il avait notamment fait des œuvres exposées dans des galeries d'art où c'était vraiment des motos énormes hérissées de plumes ou des casques de moto en plumes. Et j'ai trouvé l'idée complètement géniale. Enfin bref. Tout ça pour dire que je serais plumassier, mais tous les métiers d'art me passionnent infiniment. Je trouve que c'est complètement sous-côté. Enfin, les arts décoratifs en général, les métiers d'art en général, et l'artisanat en général. Mais en fait, je suis juste pas doué de mes mains et j'ai aucune patience, car je suis un homme.
Tu peux apprécier sans être doué de tes mains.
Oui, oui, oui. Mais en fait, ça me rend encore plus fasciné de me dire, mon Dieu, mais des gens arrivent à faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Mais moi, j'ai envie de me jeter par la fenêtre dès que je commence à cuisiner plus de 15 minutes. Quoi, donc
Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas trop de patience non plus et je pourrais jamais. Même, tu vois, les gens qui font de la céramique et tout, enfin non.
J'ai essayé, mais
un temps de cuisson de X heures, non, enfin, c'est mort, quoi.
Mais tout ça pour dire que amusez-vous, tentez des choses. Et si vous voulez tester des loisirs créatifs ou des artisanats comme ça, franchement, ça vaut le détour. Ne serait-ce que pour tenter, éprouver, tester sa créativité, c'est toujours intéressant, quoi. Même si vous êtes nul. Non, je rigole. On n'est jamais nul. C'est juste pas notre truc. Voilà. Ok, et ben c'était la petite question d'introduction qui nous a duré une demi-heure. Désolé, je parle trop. Nous parlons trop, comme d'habitude. Sur ce, c'est l'heure des kiffs. Youhou. Ariane, c'est quoi ton kiff cette semaine?
Alors, cette semaine, mon kiff, c'est quelque chose qui... C'est une recherche qui n'a pas encore abouti. Je vous explique. Ça a un lien avec mon appart. Merci Fanny de m'avoir donné cette idée. Parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais
dire. J'adore ce kiff est né en 20 secondes.
Ah oui, oui. Enfin, comme d'hab. Hein. Comme vous le savez, j'ai emménagé depuis maintenant 4 mois dans mon premier appartement où je vis seule. C'est super, je m'y sens bien. Je passe mes week-ends enfermés dedans. C'est un pur plaisir. Déjà, quand j'ai emménagé, je m'étais dit, bon... est-ce que je ne mettrais pas mon piano? Parce que, ah oui, je fais du piano. Et j'ai un piano chez ma mère. Sauf que, bon, ben, j'avais regardé quand même les prix de déménagement de piano. En fait, c'est hyper cher, quoi. Ça coûte presque le même prix que d'acheter un piano d'occasion, franchement. Et en plus, je ne sais même pas comment ils auraient monté le bail parce qu'il est quand même gros et je ne sais même pas s'il passe par la porte. Enfin, bref. Et il se trouve que j'ai quand même suffisamment de place dans mon appart pour en avoir un. Et donc, là, récemment, c'est-à-dire il y a, je dirais, 2 semaines, je me suis dit que là, j'étais bien installée, j'ai fait mes rideaux, j'ai acheté mes petits meubles, j'ai ma petite déco, machin. Ça manque un peu de livres, mais bon, c'est pas grave, ça va venir.
C'était un lapsus sublime.
Exactement. Et en fait, je me suis dit que là, il y avait certains moments où j'étais chez moi et faire de la musique, ça me manquait trop. Parce que en vrai, quand j'étais chez ma mère, il y a plein de moments où bah t'es là, tu sais pas quoi faire. Au lieu d'aller sur Insta, bah j'allais, je faisais des conneries quoi sur mon truc et tout. Et en vrai, le temps il passe super vite quand je fais ça. J'adore faire ça. Mes voisins, je pense qu'ils adorent un peu moins, mais bon voilà. Et c'était vraiment parce que j'avoue que globalement dans ma vie, je galère un peu avec la gestion des écrans. Je suis grave addict à mon téléphone. Je regarde de ouf Insta. Et encore plus TikTok.
C'est quoi ton écran par jour ?
Pardon. J'essaye de trouver d'autres façons de m'occuper, en fait, plutôt que de regarder mon écran. Surtout quand j'ai rien à faire. Parce que quand j'ai rien à faire, je suis très vite tentée de juste regarder mon tel et ne rien faire d'autre pendant des heures. Jusqu'à ce qu'éventuellement, j'ai une pote qui vienne me proposer de boire un verre, quoi. Et donc, parfois, je passe des week-ends entiers sur mon téléphone ou sur mon ordinateur à regarder des trucs, et vraiment c'est abusé parce que après je me sens comme une merde, j'ai mal à la tête et j'ai rien branlé, j'ai pas fait les courses, c'est l'enfer. Bref, il y a des gens qui, je sais qu'il y a des gens parce que j'en parle beaucoup, qui sont grave ok avec ça, avec le fait de vraiment juste utiliser son temps à ne rien faire et à regarder des trucs et tout, mais en fait moi je sais que pour ma santé mentale littéralement ça ne va pas parce que je me sens pas bien, je me sens pas aérée, j'ai pas eu la lumière du jour sur ma peau pendant 48 heures, c'est juste pas possible quoi. D'où le fait que je fais du coloriage, je fais des mots fléchés, je lis, je fais des maquettes, je fais des puzzles, j'essaye de... Voilà. Et quand j'étais chez ma mère, effectivement, le fait de faire de la musique et tout, c'est vraiment... ça me prend toujours des heures et je les vois pas passer et c'est super. Et après, je me sens pas comme une merde, comme si j'avais passé 5 heures à regarder des séries, quoi. Et du coup, je me suis dit... Ce qui est tout à fait ok. Mais juste, moi, ça me va pas parce que je me sens vraiment pas bien après quand j'ai passé une journée à faire ça. Je me sens vraiment déprimée de ouf. Du coup, je me suis dit que là, j'allais commencer mes recherches pour trouver... J'ai pas encore décidé, mais soit un piano numérique, ce qui m'empêcherait de faire chier mes voisins parce que les murs sont assez fins et c'est pas hyper bien isolé. Donc je pense que... Déjà là, je passe beaucoup de temps à chanter. Je suis assez étonnée que personne n'ait encore tapé contre le mur parce que vraiment, je pense que c'est insupportable. Et du coup, soit numérique, soit acoustique droit, évidemment, faut pas déconner. Mais du coup, d'occasion, parce que ça coûte beaucoup trop cher, un piano droit neuf, même dans les plus bas prix, c'est... Voilà. Donc voilà, je suis en train de regarder ça, je regarde un peu à droite à gauche, je demande des avis à mes potes qui ont des pianos aussi, et je vous tiendrai informé de l'avancement de ce projet.
Et tu t'achètes un clavier numérique d'occasion, ouais. Peut-être qu'on peut passer aussi, ou un piano droit effectivement, une annonce parmi les LMKers, peut-être qu'il y en a qui veulent se débarrasser, non ?
Peut-être, écoutez, si... Bah, le problème c'est que comment je l'amène chez moi en fait ?
Il faut que je trouve... Vous habitez en région parisienne ?
Ouais. Moi j'ai une question surtout, ouais. C'est je suis choquée quand tu dis que ça coûte super cher de déménager un piano.
Ouais.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher ?
Bah, il faut des mecs avec un camion qui soient spécialisés dans le transport de piano. Genre c'est pas juste des ménageurs normaux, tu vois.
Ouais, c'est fragile. Ah ouais. Et c'est parfois ça passe pas par la fenêtre. Surtout.
Ouais, voilà.
Ah oui, bah oui.
Quand ça passe pas par la porte.
Il faut le faire monter de la rue.
Il faut le faire passer par la fenêtre parfois. Ou c'est pas la porte qui gêne, c'est les escaliers en colimaçon, des choses comme ça.
Ouais.
Ma sœur a un piano énormissime et c'est la galère à chaque fois qu'elle déménage. Coming out bourgeois, pardon.
Bah oui, mais. Et du coup, celui de ma mère, je sais pas, ou alors faut le démonter, ou voilà, mais. Enfin, franchement, c'est plus de 1000 euros.
Parce que personne s'en sert là où il est ?
Bah, moi, quand j'y vais. Et du coup, j'y vais pour jouer du piano parce que j'ai pas de piano chez moi.
Ah non, mais oui, déménage-le.
Bah, je sais pas parce que.
Est-ce que la solution, c'est pas... je sais pas combien coûte un clavier numérique.
Cher.
Cher. Bah, mais tu vois, est-ce que la solution, c'est pas de
déménager
ton piano, ouais.
Alors, un clavier numérique, ça me coûterait quand même moins cher de déménager mon piano. En fait, c'est juste que.
T'as peur de faire chez tes voisins.
Le piano. Déjà, j'ai peur de faire chez mes voisins. C'est un piano qui a coûté
pas
cher.
Un casque.
Bah, si je déménage mon piano de ma mère, non. Parce que c'est un piano acoustique droit.
Ah, okay. D'accord. Ouais.
Et en plus, je sais pas quelle mouche a piqué mes parents, mais ils ont clairement pas acheté un piano premier prix. Et donc, en fait, il a un son qui est hyper clair et des basses qui sont hyper présentes et rondes. Et donc, ça fait un boucan de fou, quoi. Mmh. Et même en sourdine, vraiment, après 20h, je peux pas jouer du piano parce que. Et encore.
Et toi, t'aimes bien jouer du piano à n'importe quelle heure ?
Bah, c'est-à-dire que quand je rentre chez moi après le taf, il est genre 19h. Voire plus tard si jamais je parle avec mes collègues. Donc ça veut dire que je joue tard et c'est relou quoi. Enfin, j'ai pas
perso,
envie de faire chier.
J'aurais un voisin ou une voisine qui jouerait du piano, j'adorerais.
Non, mais Marie-Stéphanie, tu sais pas.
Parce que... Est-ce que tu joues bien ?
Oui, en vrai, ça dépend.
Bah, je me débrouille.
Et
mais...
qu'est-ce que tu joues?
Mais il faut quand même du temps, en fait, pour apprendre un morceau. Donc c'est très,
oui, le
décryptage
de la partition et tout. Ouais, ouais.
Non, d'accord. Vraiment, je pense que t'aimerais pas.
Okay.
Parce que il y a deux choses l'une. Soit t'as un concertiste qui peut te jouer n'importe quoi et auquel cas, bon, bah, bien sûr, ça
c'est,
va, tu vois.
C'est ce que j'avais en tête.
Voilà. Sauf que si t'as pas un ou une concertiste, bah, le problème, c'est que ça met du temps, le déchiffrage. Main gauche, puis main droite, puis main ensemble. Tu te trompes 195 fois. Tu dois rejouer 200 fois la même mesure. Enfin.
T'as fait combien d'années de solfège?
Un peu moins de 10 ans.
Ah, j'adore, fun fact. Ok, d'accord.
Et en vrai de vrai, le problème, c'est que j'ai arrêté de pratiquer après le lycée et en fait, ça se perd hyper vite.
Ouais.
Donc, moi, je mets des jours, enfin des jours, je te dis n'importe, franchement, c'est des mois avant de te faire un morceau en entier correctement. Et moi, j'avais un voisin quand j'habitais à Belleville avec mon ex qui jouait du piano et vraiment, c'était l'enfer. C'était donc l'enfer.
Donc, c'est pas comme le vélo, le piano. C'est pas genre une fois que
non,
tu sais faire, tu sais
tout.
Faire et
non.
Il faut vraiment que tu pratiques.
Ah ouais, ouais.
C'est comme une langue vivante, quoi. Tu pratiques
ouais.
pas tout.
Exactement.
Vie. Après, les réflexes peuvent revenir quand tu te remets à
oui,
pratiquer.
Oui.
Mais c'est une autre langue, quoi.
Mm. Ouais. Et du coup, moi, ce que je fais, et c'est, je pense, encore plus relou, c'est que je joue pas forcément des morceaux, sauf quand je m'y mets vraiment et que j'ai vraiment envie d'en apprendre un, mais c'est assez rare. Et du coup, je joue des chansons. Donc, soit je chante, soit je chante pas.
Lady Gaga.
Non, non, des chansons un peu qui s'y prêtent, tu vois, genre Dalida.
Non, oh, j'adore.
Et du coup, juste je prends les accords et je, c'est horrible, j'ai l'air pédante. Et j'improvise sur les accords de la chanson.
Petite impro.
Ouais, petite impro sur les accords de la chanson. Mais quand j'ai, on va dire, 10 chansons préférées que j'adore jouer au piano, en fait, c'est rien. Donc les voisins, je pense que ça pète un câble.
Oui, ils veulent que quelqu'un te dise, quoi.
Ouais, ouais, clairement.
Mais tes voisins, chez tes parents, ils pètent un câble.
Jamais personne ne m'a rien dit.
Ok.
Et je suis
ben
très
alors.
Étonnée.
Mais ça se trouve, et fais un sondage auprès de tes voisins.
Non, ou alors, fais du clavier sitting. Peut-être que t'as quelqu'un dans ton entourage qui va partir en vacances, dont tu pourrais emprunter le piano numérique. Comme ça, tu testes la résistance de tes voisins et voisines. Et au bout de 2 semaines, si personne ne dit rien, tu ramènes ton gros piano de chez tes parents.
Une excellente idée, je trouve.
Surtout qu'en vrai de vrai, je sais qu'a priori, ça ne dérangerait pas parce que j'avais demandé à ma proprio au moment où j'ai visité l'appart, et elle m'a dit, moi j'avais un piano, ça n'a jamais dérangé personne.
Mais alors, mais oui.
Oui, je sais, mais bon, voilà. Et le truc avec le clavier sitting, c'est que franchement, un bon clavier numérique, c'est hyper dur à bouger aussi. Hein. Il ne faut pas un camion.
Oui, de toute façon, c'est, mais... tout ce qui est cher, voilà. Vaut mieux pas trop le tricoter, quoi. Pas trop le déplacer, pardon.
Donc écoutez, voilà mon kiff. En plus, hier, je suis allée chez ma mère, c'était super. J'ai passé au moins 4 heures à jouer. Je pense que là, vraiment, mes voisins, ils ont mis des boules pièces.
Franchement, moi, je suis pour que tu récupères ton piano.
Le piano de ma mère ? En fait, elle veut pas me le donner. Parce qu'elle
dit
que, elle dit que c'est bien dans la déco et que dans le salon, maintenant, il est là. Et puis, il y a des trucs dessus, il y a des plantes,
il
y a
après,
des cadres.
C'est, peut-être pas... c'est aussi ce que ça symbolise.
Oui,
c'est
bah oui.
Si tu viens jouer du piano,
mais oui, oui.
Si
ah
il
n'y oui,
a plus le piano, tu viendras peut-être
oui.
moins. Et
c'est vrai.
Ça voudrait dire que tu seras vraiment parti.
C'est
enfin,
vrai.
C'est ouais. lourd de sens.
J'ai envie de pleurer. Je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais on en a parlé. Je lui avais demandé. Elle m'avait dit, franchement, moi, je préfère le garder. Quoi. C'est
ma
joli.
Pareil,
et puis tu viens. Hein ?
Ma mère avait pareil à ma sœur.
Voilà, tu vois.
Moi, j'ai envie de pleurer.
C'est trop mignon. Oh là là. J'adore.
Et en plus, ma mère, elle adore. Quand...
Allez, fais-nous chialer.
Hein ?
Ma mère, elle adore quand tu joues.
Quand je
joue, et elle vient et elle me dit s'il te plaît, joue ça et tout. Et je connais pas forcément parce que c'est ces trucs de Rital là. Moi, je connais pas toutes les musiques italiennes qu'elle écoutait, tu vois. Mais juste, je prends les accords et tout. Et elle est en mode ah, c'est super et tout.
Oh,
et allez, attendez, anecdote hilarante.
On va juste y aller encore plus.
Hier, du coup, je suis allée chez elle, j'ai joué du piano et tout. Et il y a eu un moment, maintenant un peu moins, mais il y a eu un moment où j'étais obsédée avec Starmania. J'étais allée voir Starmania, la nouvelle version, entre guillemets, de Thomas Joly. Et du coup, j'étais obsédée par les chansons de Starmania et tout. Et hier, donc, j'étais en train de jouer, puis alors, elle vient me voir, elle me fait « Non, mais chante-moi la chanson, là. La chanson de l'homosexuel. » Vraiment, là, je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle me raconte ?»
Tout Ziggy.
Ça, tout, voilà, exactement. Ah. Tout ça, mais, en fait, elle voulait que je lui chante un garçon pas comme les autres. C'était hilarant, vraiment. J'ai explosé de rire. J'ai failli le mettre en story. Après, je me suis dit « Bon, je vais l'afficher, c'est pas bien. » Voilà. Donc, tout ça pour dire que ouais, elle aime bien et tout. Elle vient, elle me dit « Allez, joue ça, chante ça. J'aime bien quand tu chantes ça et tout. Non, mais refais-moi cette phrase, là, je trouve ça joli. » Ouais, en vrai, c'est trop mimes. En vrai, c'est trop mimes.
C'est trop, trop mignon.
Et voilà.
Autre possibilité, si tu gagnes au loto, c'est de laisser le piano... Non, c'est de ramener le piano chez ta mère, chez toi, et d'acheter un clavier numérique pour chez ta mère. Comme ça, quand tu vas chez elle, il y a un clavier numérique.
Ouais.
Et chez toi, t'as le piano acoustique.
Voilà, c'est... là, c'est vraiment.
Seulement si tu gagnes,
si tu gagnes
l'auto.
L'auto, évidemment.
Oui, je gagne l'auto, vraiment.
Voilà.
En tout cas, écoutez, si vous êtes un LM cœur, LM queuse.
Qui voulait se débarrasser d'un clavier.
Qui voulait vous débarrasser d'un clavier, n'hésitez pas à me contacter. Cela dit, je sais pas comment je vais faire pour l'amener chez moi. Donc, en fait, la question est toujours la même. Parce que, en vrai de vrai, sachez que sur Le Bon Coin, il y a énormément de gens qui donnent des pianos acoustiques parce que je pense qu'ils savent pas quoi en faire. Soit
c'est vrai que ça prend la place.
Bah ça prend de la place. Soit c'est dans des appartements de personnes qui malheureusement sont décédées et qui donc du coup ils n'en ont plus l'utilité. Mais il y a énormément de gens qui en donnent. Le problème c'est que j'ai pas le permis donc en fait, enfin, mais même porter un piano, je sais pas comment faire en fait. Si vous avez déjà acheté un piano sur Le Bon Coin ou déménagé un piano, dites-moi comment faire parce que là vraiment je suis dans l'impasse.
Franchement, je pense que les gens aident beaucoup plus qu'on ne le croit. Du moment que tu donnes un billet aussi, ça aide, évidemment.
Ouais, bah
mais
oui.
Je pense que même sur Le Bon Coin, tu peux trouver des gens qui... Je te conseillerais juste pas de le faire toute seule, mais ouais, qui proposent des services de location de camionnette pour pas cher ou qui font aussi eux-mêmes ou elles-mêmes
se
le chauffeur
déplace
ou chauffeuse. Ouais. Moi, quand j'avais déménagé il y a peu de temps d'un endroit X à un endroit Y, en gros, j'avais un matelas tout neuf dont je devais me débarrasser. Et il y a une jeune qui a voulu me l'acheter, une personne qui avait mon âge, donc 22 ans. Et en gros, elle avait pas le permis, elle savait pas comment le porter, c'est un truc hyper lourd et encombrant. Et elle devait le déménager jusqu'au cinquième étage de son appartement qu'elle venait d'acquérir ou je sais pas quoi, enfin de louer. Et en gros, elle a trouvé un mec random sur Le Bon Coin qui louait une camionnette. Et moi, je lui ai dit, mon Dieu, mais cette histoire est traumatisante. Genre, vraiment, fais attention. Et dès que t'arrives chez toi, tu m'envoies un SMS pour me dire que t'es bien arrivé et tout.
Ouais,
et sinon, j'appelle les flics et préviens trois autres personnes au cas où. Et bref, elle m'a dit, non, mais franchement, je fais ça tout le temps, j'ai jamais eu de problème et tout. J'ai dit, bah oui, mais il suffit d'une fois. Bref, j'étais parano. Et en gros, elle est arrivée avec le type. On a mis le matelas, le type, elle et moi, dans la camionnette. Et elle l'a ramené chez elle. Et comme, en fait, elle avait pas d'ascenseur, bah, le type l'a aidé à porter jusqu'à dans son appartement.
Ouais.
J'étais genre, et après, je l'ai appelé quand c'était, parce qu'elle m'avait pas appelé tout de suite, parce qu'on se connaît pas, en fait.
Ah, oui.
Et j'ai dit, tout va bien. Elle dit, bah oui, bien sûr. Il m'a mis le matelas dans ma chambre et après, il est parti. Et je lui ai donné un pourboire de 5 euros, quoi.
Bah, c'est-à-dire que si je le fais, moi, j'avoue, je le ferais pas seul, quoi, parce que...
Oui.
Justement, fais avec 2-3 potes, ou une autre pote, ou un autre pote, et quitte à prendre quelqu'un, une tierce personne que vous ne connaissez pas, mais faites-le à deux personnes qui se connaissent, et vous prenez un chauffeur ou une chauffeuse de camionnette sur Le Bon Coin, et hop, 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 quoi.
Ouais.
Et j'allais dire, tu sais, il y a des sites internet comme les débrouilleurs, là, fin, qui sont des... mecs ou des meufs qui viennent t'aider sur du bricolage chez toi.
Et
là, je vois du transporteur aussi. Et je sais pas, j'ai tapé 2-3 mots-clés dans Google. Et t'as des sites internet qui existent. Je vois un truc qui s'appelle Des Bras en Plus, le déménagement pour tous. C'est un truc plus de déménagement. Mais je suis sûre qu'il y a des sites de gens qui... Enfin, d'entraide, tu vois. Si t'as besoin de potentiellement juste déplacer quelque chose...
Et de ouf, moi j'avais failli utiliser TaskRabbit quand j'avais l'appartement dans lequel je vis, j'avais plein de travaux à faire dedans et tout. Et juste, je pleure dès que je vois un pot de peinture avant même de l'avoir ouvert. Et bon, j'ai pas utilisé ça, je me suis plutôt mis sur Tinder et j'ai exploité des âmes, mais c'est possible de payer des gens pour le faire.
Bah oui, bien sûr, non mais je sais, je sais. Mais l'idée c'était quand même d'économiser en fait de l'argent. Donc, j'essaie de trouver la solution la plus
économique.
Faire
comme moi, devenir michto.
Non mais alors en plus ce qui est hilarant c'est que vraiment j'en ai parlé à mes potes lesbiennes car je n'ai que des potes lesbiennes et vraiment l'audace de ces personnes quoi. Ma pote Manon me dit, j'ai donné son nom, ma pote Manon me dit oh mais t'inquiète moi je te le déménage ton métro, ton piano là, on va dans le métro, je le prends, je le démonte. J'étais en mode mais toi tu n'as pas idée de ce que c'est en fait. J'ai dit n'importe
non,
quoi
un piano
mais n'importe quoi vraiment.
C'est énorme, c'est lourd.
Après il faut le réaccorder parce qu'il aurait été complètement désaccordé.
C'est n'importe quoi.
Bref, ok, merci pour ce kiff.
Voilà, de rien.
Les LM Cœur, si vous avez un clavier dont vous voulez vous débarrasser,
j'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire.
Écoutez, je vous tiendrai au jus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Voilà. Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff cette semaine?
Mon kiff cette semaine, c'est un double kiff. Tenez-vous bien. Vous n'allez pas en revenir puisque je n'ai jamais fait de kiff de ce genre. Je vais parler de livres.
Mais non.
Et oui, je sais bien que vous ne vous y attendiez pas. J'avais envie de parler de deux livres que j'ai lus récemment et beaucoup aimés. Les deux sont très différents. Il y en a un qui va peut-être donner envie aux amateurs et aux amatrices d'art, et peut-être même de métiers d'art dont on parlait tout à l'heure. Ce livre en question, le premier que je voulais vous recommander, c'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Pas du tout.
Ça me dit un truc, mais alors, que c'est juste parce que je travaille chez Mademoiselle et que t'en as peut-être déjà parlé, je sais pas.
Non, j'en ai jamais parlé. Je l'ai lu, j'étais en congé il y a deux semaines, pendant une semaine, et je l'ai lu pendant cette semaine-là. Mais en fait, on parle beaucoup de ce livre. Il est présenté comme, c'est, je crois, le premier livre de Thomas Schlesser. Il est présenté comme... le livre de cette rentrée littéraire je crois qu'il y a déjà de multiples contrats d'adaptation en négociation pour en faire un film. Je crois bien également qu'il a été traduit, qu'il est en cours de traduction, dans plein d'autres langues. Et ce livre, Les yeux de Mona, je vous montre la couve et vous allez tout de suite voir de quoi ça parle.
Ok.
Si vous reconnaissez, c'est un tableau, c'est une
tableau
peinture.
De Vermeer, non ?
Oui. Les yeux de Mona, c'est quand même un gros pavé. C'est l'histoire, c'est une très jolie histoire, assez touchante, d'une petite fille qui a une dizaine d'années, 10 ans, et à qui on apprend qu'elle va perdre la vue. Son grand-père, qui est un monsieur un peu particulier, se met en tête, plutôt que de l'accompagner à ses séances de psy, parce qu'on lui conseille de voir un psy, une fois par semaine, l'emmène dans des musées. Son objectif, c'est de lui montrer, pendant 52 semaines, 52 œuvres d'art présentes dans des musées parisiens, parce que l'histoire se passe à Paris, de lui montrer des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, de passer du temps devant pour qu'elle se souvienne le jour où elle perdra la vue totalement. C'est complètement horrible. Mais pour qu'elle se souvienne de la beauté de ses œuvres. Et donc, je ne vais pas spoiler davantage l'histoire. Mais voilà, en gros, il y a 52 petits chapitres qui parlent du coup de 52 œuvres différentes. Ça va des très connus comme des moins connus. Donc, il y a évidemment La Joconde, mais il y a aussi... plein d'œuvres qui sont visibles dans les musées parisiens et qu'on connaît pas forcément très bien. Et c'est un très beau livre. Il est très bien écrit déjà et l'histoire est assez touchante, un peu glauque aussi à la fois, mais c'est rendu assez léger par le fait que en fait c'est plus les pérégrinations d'un grand-père et de sa petite-fille qui ont cette relation particulière à travers des œuvres d'art et des musées parisiens. Si vous aimez l'art, l'histoire de l'art, ou au contraire, si vous y connaissez rien et que vous avez envie de découvrir ces œuvres via un autre regard aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les œuvres à la fois à travers les yeux de la petite-fille qui s'appelle Mona et aussi à travers les yeux de son grand-père qui, lui, a un regard... plus formé sur la peinture, sur les œuvres qu'il va lui montrer, tandis que elle a le regard d'une fille de 10 ans qui en fait connaît absolument rien aux œuvres qu'on lui montre et voilà, c'est hyper intéressant, très bien écrit. Et Thomas Schlesser, pour vous dire un petit mot sur qui il est historien de l'art, écrivain, et il dirige aussi la fondation Artun Bergman. Il a écrit Les yeux de Mona, mais il avait également écrit un livre sur une super artiste qui s'appelle Anna Eva Bergman, qui est sortie en 2022. Ça, c'est pour la première recollecture. La deuxième recollecture, absolument rien à voir. Vous avez peut-être entendu parler de ce bouquin qui s'intitule Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès.
Oh.
Vous voyez ? Non ?
Non.
Ok, d'accord. Je suis vraiment trop obsédée alors par les sorties littéraires, c'est pas possible.
Ouais, non, pas du tout.
Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ? Est-ce que tout le monde est au fait avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ?
C'est un mec qui a disparu, quoi. Enfin, on sait pas où il
est. Après avoir sous sa terrasse, non ?
Décimé sa famille ! Décimé sa famille, tuer sa femme, ses 4 enfants ou 3, je sais plus, ses 2 chiens. Et effectivement, après les avoir enterrés sous sa terrasse, ça s'est passé à Nantes en 2011. Et le mec a complètement disparu des radars. Je crois que la police a réussi à tracer 3-4 jours ou une semaine grand max après, après les meurtres. Mais ensuite, il a complètement disparu. Et donc, on parle de 2011. Hein, donc c'était il y a 13 ans. Mmh. Entre-temps, l'affaire a... Enfin, déjà, c'est un fait divers qui est assez horrible. Et on sait à quel point aussi le grand public aime les faits divers. Donc, il y a, je crois, il y a 3 ans, Society en avait fait... 2 ou 3 hors-série pendant l'été. Ils avaient feuilletonné une grande enquête qui était vraiment hyper intéressante. C'était complètement sold out dans tous les kiosques de France. Enfin, je me souviens, c'était du délire. On se prêtait les Society pouvoir le lire pendant l'été. Et il y a évidemment plein de théories sur sa disparition. Il y a eu plein de documentaires qui ont été réalisés. Parce que le mec était complètement psycho dans sa tête. C'est-à-dire qu'il avait presque une double vie, en fait. C'était un entrepreneur déchu. En gros, tout ce qu'il avait tenté dans sa vie avait foiré. Mais c'était à la fois quelqu'un qui avait... Le rêve américain chevillé au corps. Enfin, le mec imaginait qu'il allait faire des trucs incroyables de sa vie et au final, bah non. Enfin, il était juste, entre guillemets, père de famille et vu de l'extérieur, on pourrait se dire qu'il avait une vie relativement OK. Enfin, dans une belle maison à Nantes, avec une famille, des enfants plutôt successful, en bonne santé, etc. Enfin, de l'extérieur, on pourrait se dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et bref, donc le mec a disparu. Pendant des années, ça a donné lieu aussi à plein de, donc, comme je disais, de théories sur où est-ce qu'il est. Il y a eu aussi plein de dénonciation. La dernière en date, je ne sais plus ce que c'était. Quelqu'un pensait l'avoir vu dans un aéroport en Grande-Bretagne. Et en fait, ce n'était pas lui. La fois d'avant, quelqu'un pensait l'avoir vu dans un monastère dans le sud de la France, vraiment. Et en fait, il n'a jamais été retrouvé. Et ce livre, « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès », avec un titre qui paraît très... racoleur, dit comme ça, parce qu'évidemment l'auteur de ce livre, qui est Romain Puertolast, n'a pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Donc lui, Romain Puertolast, il est romancier et scénariste, et en fait il s'est passionné de cette histoire, donc il a absolument tout étudié, toutes les pistes, et il a mené sa propre enquête pour écrire, jusqu'à écrire ce roman qui est en fait c'est un parti pris assez curieux, parce que il se place donc lui en tant que Romain Puertolas dans le roman, donc enfin c'est presque une autofiction. Et il se présente donc comme un ancien capitaine de police devenu écrivain à succès, mais qui s'est séparé, qui maintenant vit seul et qui reprend l'enquête autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Et en fait, il va s'isoler dans une maison dans la campagne française, et il se rend compte que son voisin, la maison à côté, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, qui est là, enfin genre sa terrasse à côté de lui.
Sa terrasse. Qui a-t-il sa terrasse.
Et exactement. Et alors, c'est du coup toute cette histoire, c'est à la fois un mix entre l'enquête que donc le personnage de Romain Puertolas dans le livre a mené sur Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il part vraiment des faits réels de l'affaire. Donc, il est capable d'émettre des théories qui n'ont jamais été émises auparavant. Donc, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment, enfin, on va dire vraiment, ça peut être réaliste. On peut se dire, ah bah tiens, oui, pourquoi ils n'ont pas cherché de ce côté-là pour le retrouver, pourquoi ils n'ont pas cherché de ce côté-là. Et ça, effectivement, ils l'ont laissé de côté, mais... Et il y a plein, en fait, ça fait émerger plein de nouvelles théories qui rendent le livre hyper intéressant. Et à la fois, c'est entrecoupé de scènes, de procès de Romain Puertolas. Je vais pas vous dire pourquoi les scènes de son procès, parce que sinon je vous spoil tout le livre en vrai. Mais bref, et voilà, donc c'est vraiment, enfin c'est un roman, ça n'apporte rien de vrai sur l'affaire, mais ça permet d'avoir des théories nouvelles qui n'existaient pas auparavant, et surtout c'est très drôle. Enfin, son écriture est très drôle. C'est, faut quand même pas lire ça le soir à 23h30 comme moi j'ai fait pendant les vacances, parce que j'en ai cauchemardé derrière, parce que vraiment il revient sur l'enquête, donc forcément il y a des détails qui sont rappelés sur comment, quel a été son mode opératoire, ce qu'il a fait à sa famille, et c'est complètement glauque. Mais c'est aussi très drôle parce que justement il fait des vannes. Enfin, parfois il y a des situations un petit peu ubuesques, complètement tiré par les cheveux, ou en fait donc il se rend compte que son voisin c'est Xavier Dupont de Ligonnès, mais en même temps à un moment donné il le voit revenir de Bricomarché ou de je sais pas où, et là il se fait des énormes films genre il va m'enterrer sous ma terrasse, enfin c'est de l'humour un peu noir, hein. Mais voilà, donc si vous êtes friand ou friande de faits divers et plus particulièrement d'affaires non élucidées comme celle-ci, je pense que ça vous plaira si vous aimez aussi, c'est bizarre de dire ça, mais si vous êtes pris d'intérêt pour cette affaire, le livre peut vous plaire. Et puis ce côté roman, il réussit à faire un roman un peu drôle et léger d'une histoire qui n'est pas du tout, fait que ça rend le sujet moins glauque qu'il ne l'est à la base. Mais voilà, en tout cas, je l'ai vraiment. Mais littéralement dévoré, je pense que je l'ai lu en 2 jours. Et ouais, entre histoire de l'art ou affaires criminelles non élucidées, faites votre choix.
Non mais en vrai, de vrai, il est mort, non ?
Quoi ?
Moi, je pense qu'il est mort.
Attends, c'est impossible, on est en 2024.
Vous avez 3 heures devant vous ou pas ?
Toutes les technologies qui sont, je sais pas, qui existent.
Avec tous les gens qui filment tout et n'importe quoi.
Mais en plus.
Je pense pas qu'on aurait retrouvé son corps s'il était mort.
Pas forcément.
Peut-être qu'il s'est mis dans une bassine d'acide.
Oui, il y a plein de trucs.
Il s'est jeté dans la mer.
Bah oui, ce que je me dis. Hein.
Bassine d'acide. Quand tu te jettes dans la mer, ton corps, il est ramené sur la plage. Hein,
pas forcément.
N'empêche
si
que.
Il a attaché des pierres à ses pieds.
N'empêche que, si je peux rajouter un petit teasing, c'est que la dernière fois qu'on l'a aperçu, il partait sur un sentier avec une sorte de pochette à costume dans le dos, je sais pas comment ça s'appelle.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Une housse de costume.
Et ouais. Voilà, une housse de costume. Et on soupçonne que dans cette housse de costume, il y avait l'arme du crime qui n'a jamais été retrouvée, qui était un fusil.
Donc quelqu'un regarde partir comme ça.
Oui, c'est bizarre.
J'avais les flics, non ?
Bah, c'est le dernier témoin qui l'a vu.
Les gens sont bizarres.
Comment on peut se souvenir de ça ?
Tout le monde avait un téléphone sur lui, non ? Je sais pas.
Eh ben, je sais
moi,
pas.
J'avais 9 ans, mais.
Enfin, c'est juste que moi, là, imaginons aujourd'hui, il y a un gars, il est archi recherché, machin. Je le sais, je le croise, je vous jure que je pense que je ne capte pas que c'est lui.
Ah,
mais moi, je
ne
sais même pas quel tête il a.
Mais moi non
pas,
plus.
Ce truc-là,
mais en fait, là où il a été aperçu pour la dernière fois, c'est un sentier, un chemin qui est assez peu emprunté, enfin, que par
l'angoisse.
Des promeneurs. Et donc, ouais, voilà. Et donc, je pense que. Tu retiens plus facilement les gens que tu croises dans ce genre de conditions que dans la rue avec beaucoup de monde dans Paris. Mais n'empêche que, juste pour ce petit teasing, dans le livre, il explique, Romain Poirtelas, qu'on a estimé qu'il était parti dans une seule direction et qu'il n'était pas revenu. Comme s'il était allé se perdre dans les montagnes pour potentiellement se suicider. Mais en fait, on n'a pas étudié la possibilité qu'il ait fait demi-tour et qu'il soit reparti on ne sait où. Étant donné que on n'a jamais retrouvé, on l'a jamais revu depuis, quoi.
Et ça me fait penser aussi que, enfin, je suis un peu étonné parce que je me dis aussi, dans les coins paumés comme ça, sur un sentier où personne ne va, ou juste des promeneurs et des promeneuses habituées, qu'on retienne pas davantage qui on croise. Mais par exemple à Paris, je me dis, mais le nombre de visages qu'on croise par jour,
oui,
on retient pas qui on croise.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Moi, je connais même pas la tête de mes voisins.
Bah moi non plus, pas tous.
Alors là, je vais raconter l'histoire de mon voisin qui a slidé dans mes DM avant même qu'on ne se soit croisé dans la vraie vie. Mais c'est une
histoire.
C'est vraiment une histoire mi-flippante, mi-drôle.
Je veux cette anecdote. Il faut que je parte parce que j'ai un call important après. Donc, mais je veux vraiment cette anecdote, Anthony.
Je te raconterai.
En tout cas, si je peux rebondir sur ce truc de croiser des gens et que je ne les reconnaîtrais pas si jamais ils étaient recherchés, parfois je fais des trucs de folle. C'est-à-dire que je me dis. Parfois, je vois des situations qui me paraissent bizarres. Et je me dis, putain, imagine, là, je suis un témoin clé dans une affaire. Je suis pleinement folle. Et
non,
du coup,
aussi,
je note
ça.
Dans mes notes,
ah
par
non,
exemple, une plaque d'immatriculation.
Non,
ou un truc, je me dis, genre, putain, il est quelle heure, là ? Ok, je vais regarder ça. Parce que parfois, il y a des situations où je me dis, bizarre ce gars, je sais pas. Et du coup, je vais noter des trucs. Je suis un peu folle. Voilà, fin de l'histoire. Parce que je sais que sinon, enfin, moi, jamais, je vais... Fin...
Non, bah, en tout cas, s'il arrive un drame où tu aurais pu...
Très bien.
être présente, et ben on saura qu'il y a peut-être des choses dans tes notes.
Écoutez,
ou s'il arrive un truc à toi, éventuellement. Dans tes notes aussi.
Je vous dis au revoir.
Très
je
bien.
Je pars avant la fin. C'était trop cool.
Revoir, merci Marie Stéphanie.
À toutes.
Fais attention à tes voisins. Bref.
Alors, Anthony, c'est quoi ton kiff?
Mon kiff sera expéditif. J'hésitais à vous parler d'un livre et Refleurir de Kiemis, l'afro-féministe poétesse que j'adore. Mais comme Marie Stéphanie a fait un double kiff livre, je vais vous parler d'autre chose.
Très bien.
J'allais vous parler également de l'album de Lala Ace, Solstice, qui est incroyable, mais qui vous a déjà parlé de rappeuse récemment, donc je vais le garder pour plus tard. Et enfin, le vrai kiff cette semaine, ça va être Erika Lust. Car Erika Lust, c'est une réalisatrice de films porno féministes depuis presque 20 ans. Non, bah pile 20 ans, en 2024 d'ailleurs, maintenant que je réalise. Ah, tout s'explique, c'est pour ça qu'elle nous a invités. Je n'ai toujours pas sponsorisé, hein, je tiens à préciser, mais un jour dans nos boîtes mail, on reçoit une proposition étonnante de la part d'Erika Lust, donc. Qui nous dit « Coucou mademoiselle, j'adore ce que vous faites. Est-ce que vous voulez venir voir mon travail à Barcelone ?» Ni une ni deux, avec ma collègue Inès Popo, Inès Polon, je décide d'y aller. Elle est responsable vidéo chez mademoiselle et on s'est dit « On va faire un reportage vidéo, ça va être marrant. » Et donc, on débarque dans les locaux d'Erika Lust et elle nous raconte sa vie, son œuvre, son travail. Et qu'est-ce que ça fait de faire des pornos? Nous, on était prêts à tout. On s'est dit peut-être qu'on va aller sur un tournage. Comment est-ce qu'on s'habille pour aller faire figurant sur un tournage de porno? voilà, c'était archi drôle. Évidemment, on n'a pas fait tout ça. C'était dommage. Nous, on a quand même vu d'autres trucs trop cool et c'était hilarant et hyper intéressant. Et donc, on en a fait un reportage en toute indépendance éditoriale, évidemment, qui vient de sortir aujourd'hui où nous enregistrons lundi 19 février sur Mademoiselle, sur YouTube, Instagram, TikTok, tout ça, tout ça. Et au moment où sortira l'épisode, bah, il sera encore plus disponible partout. Enfin, vous l'aurez sans doute vu passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, c'est que vous n'êtes pas abonné, c'est que vous n'avez pas activé la petite cloche. Donc faites-le sur YouTube, sur Instagram, mettez-nous dans vos favoris, tout ça, tout ça. Vous connaissez le tantouin. Et bref, donc c'était vraiment hyper intéressant parce que vous vous posez peut-être des questions sur le porno. Un porno éthique est-il possible? Faut-il payer pour réussir? Oui. Non, je rigole. Enfin, en tout cas, il faut payer pour que ça soit un peu plus éthique, évidemment, parce que tout travail mérite salaire, y compris le travail du sexe, évidemment. Maintenant, on n'est pas là pour faire l'apologie du porno non plus, mais c'était hyper intéressant de découvrir comment ça se fabriquait, en fait. La fabrique de... du porno, mais ça interroge aussi la fabrique de nos propres fantasmes personnels, individuels, et ils ne sont pas si personnels et individuels que ça en réalité, parce qu'on est imprégné de tellement de représentations dans la pub, dans la mode, dans la beauté, dans les films, dans les séries et dans le porno, qui contribuent à façonner nos désirs, nos fantasmes et nos interdits. Donc je trouvais ça hyper intéressant d'appréhender un peu les choses et ça m'a mis plein de points d'interrogation dans ma tête. Et aussi, il y a un truc qu'elle propose de faire, que je n'ai pas encore fait, mais peut-être que je le ferai un jour, c'est Erika Lust a une plateforme qui s'appelle X Confessions, donc la lettre X est confession au pluriel. Si vous tapez Erika Lust, confession X, vous allez trouver, peut-être que mon accent est pourrave, voilà, navré pour mon English. Et donc sur ce site, n'importe qui, Ariane, Fanny, Marie-Stéphanie, le mari de Marie-Stéphanie, peuvent écrire leur confession XXX et dire, raconter leur fantasme en tout anonymat. Et une fois que vous l'avez raconté, si Erika Lust et ses équipes se disent « ça c'est croustifondant, on en ferait bien un scénario », eh ben elles peuvent. Et donc, elles ont adapté plein de fantasmes racontés anonymement par des quidam en film porno. Et voilà, donc n'importe qui peut devenir la source d'inspiration érotique de l'univers. Moi je rigole. Des gens qui consomment du porno féministe éthique. Voilà. Wow. Et donc, quand elle nous a raconté ça, on s'est dit avec Inès, venez-nous, raconte nos fantasmes et tout. Mais bon, j'étais avec ma collègue, elle n'allait pas le faire devant elle. Donc, j'y réfléchissais, mais là, je n'ai pas encore cette elle pas, mais peut-être qu'un jour, je raconterai un truc avec mes histoires de gros bureaux. Voilà.
De gros bureaux ?
Oui. Ça t'écoute pas assez, LMK, je pense.
non, mais moi, vraiment, ce truc du fantasme, ça, c'est quand même un truc qui m'interroge parce que. Si tu me demandes comme ça, c'est quoi tes fantasmes? Premier degré, même après réflexion, je pense que je ne sais pas répondre. C'est-à-dire que, en gros, mon désir, moi, il va être dirigé à un instant donné. Mais tu vois, il n'y a pas des situations ou des contextes qui particulièrement... Par exemple, je ne me dis pas, putain, j'aimerais trop coucher avec une meuf plus âgée. C'est pas du tout... Enfin, et il n'y a rien que... Et donc, je me demande si des gens ont vraiment ce truc de se dire... moi, un truc qui m'exciterait de ouf, c'est de faire ça dans tel ou tel contexte, avec tel ou tel genre de personne. Il y a des gens, c'est le cas. Fanny dit oui. Fanny dit, moi, oui.
Fanny nous le racontera peut-être dans un prochain épisode. Classé moins de 18. Non,
exactement.
Mais après, c'est ok de pas avoir de fantasmes non plus. Enfin, c'est pas que t'es cassé ou quoi. Je pense qu'en fait, on a un imaginaire érotique qui dépend de mille et un facteurs. Et il y a des gens, c'est des situations, d'autres, c'est des fétiches, d'autres, des parties du corps, des accessoires, etc. Et d'autres, c'est rien de tout ça. Et c'est ok aussi, quoi.
En fait, mon imaginaire, moi, il se nourrit. Il est nourri de ce que j'ai déjà fait, de situations que j'ai déjà vécues. Et c'est ça qui, voilà, quand je suis par exemple seule, c'est ça qui m'aide, tu vois. Mais c'est vrai que je crois que j'ai pas beaucoup d'imagination.
Mais après, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça veut dire que tout est à défricher.
Ouais, c'est vrai.
T'as plein de potentiel érotique qui t'attend devant toi.
C'est vrai, c'est vrai.
Et plein de découvertes et tout, enfin, c'est trop cool.
Si j'ai quand même un truc, c'est les sex parties, parce que j'en ai déjà fait, mais sans jamais consommer, on va dire, sur place. Donc je sais que j'aime bien l'ambiance et tout, voilà. Mais en fait, même si c'est fait pour, c'est pas forcément un truc qui m'excite sur le moment, quoi.
Et après, tous les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés, donc ça peut rester un truc dans la tête auquel on va participer à moindre frais ou sans s'investir à fond et tout, et c'est ok aussi, quoi. Enfin, voilà.
Effectivement.
Mais moi-même, j'ai pas un imaginaire érotique hyper riche ou développé, ou en tout cas, je le cultive pas du tout. C'est pas. Je suis pas tellement dans le fantasme, en fait. Je suis pas du tout un intellectuel du sexe.
Ouais. Non, moi non plus.
Enfin, je le mentalise pas beaucoup.
Moi,
il y a des
plus.
Gens qui sont très, très, très intellectuels, très dans le mental, dans la réflexion, l'anticipation, la scénarisation, voire.
Moi, c'était beaucoup plus le cas avant, quand j'étais plus jeune. Maintenant, plus du tout.
Bref. Mais je me demande si c'est pas quelque chose qui se développe avec l'âge. Parce que, comme tu le disais, Ariane, c'est avec l'expérience que. Enfin, pardon, ça dépend. Ton imaginaire érotique est nourri de tes expériences que t'as vraiment vécues. Et ben, je sais pas si c'est le cas de plein de gens, mais en tout cas, c'est mon cas aussi. Et je pense que, en grandissant, à mesure que je cumule des expériences, je me rends compte que peut-être que. Il y a des choses qui se répètent que j'apprécie, d'autres qui se répètent que j'apprécie pas, et du coup, je les bannis de ma vie et tout.
Ouais.
Et en fait, ça affine ton goût.
Exactement, exactement.
Et voilà.
Mais c'est exactement ça.
En tout cas, je trouve que c'est des réflexions hyper intéressantes et que c'est cool aussi de réfléchir à nos pratiques, en fait. Et
exactement.
À ce qu'on ne pratique pas aussi, évidemment, sans aucune injonction, évidemment. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de vie sexuelle active, c'est totalement OK. Enfin, vous n'êtes pas obligé de baiser.
Clairement.
Voilà, ni de faire l'amour ou quoi que ce soit. Enfin. Voilà, mais du coup, tout ça pour dire que ce reportage, j'ai adoré le faire, j'ai adoré passer 2-3 jours à Barcelone, et j'ai adoré surtout rencontrer cette femme qui a bâti un empire de porno féministe éthique. Je me dis, en fait, il y a aussi moyen de faire les choses bien, mais peut-être que c'est aussi l'exception qui confirme la règle. Je suis pas non plus débile, je voudrais pas propager une vision angéliste du porno. C'est peut-être que parce qu'il y a une Erika Lust et qu'il pourrait bien avoir 50, que Erika Lust se porte bien financièrement. C'est que s'il y avait plein de maisons de production de porno féministe éthique, en fait, elles s'entretueraient, en fait. Enfin, ce serait pas tenable. Il y aurait pas assez... Tout le monde n'a pas les moyens de payer de 5€ à 15€ par mois pour du porno éthique, en fait. Je pense que c'est. Si... En plus, il y a de plus en plus de gens qui sont abonnés à une plateforme d'écoute de streaming musical, une plateforme de films et séries. Et si en plus de ça, on a une plateforme de porno. En fait, on peut pas dépenser 50 balles dans nos plaisirs audiovisuels, quoi. Du porno, non.
Moi non plus.
Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une niche. Et c'est qu'en fait, il y a certaines personnes qui peuvent se le permettre, qui le font, et tant mieux. Ça entretient la possibilité d'avoir des choses éthiques qui sont faites. Mais c'est hyper compliqué, en fait. Et donc, c'est peut-être aussi l'arbre qui cache la forêt de mauvaises pratiques. Donc, voilà, c'est aussi à prendre en considération. Je dis pas que Erika Lust est la solution. Parce qu'en fait, si tout le monde faisait du Erika Lust. Enfin, ce serait trop cool si tout le monde faisait du Erika Lust, mais je pense que ce n'est pas possible dans l'état actuel des choses.
Ouais,
et
ouais,
des psychés, en fait. Enfin, c'est qu'il n'y a pas assez de gens prêts à payer. Et de toute façon, on n'a pas les moyens matériels de payer.
Ouais.
En fait, c'est la crise. Donc, voilà. Mais il ne pourrait pas y avoir... Enfin, en tout cas, il faudrait qu'il y ait... Je ne sais pas comment dire, je me répète, mais tout ça pour dire qu'allez regarder ce reportage et posez-nous plein de questions là-dessus, on y répondra évidemment.
Et est-ce que tu as aimé les projections auxquelles tu as assisté, c'était comment?
Oui. Ah oui, donc je pourrais raconter un peu plus en détail le reportage. Donc en fait, on a beaucoup visité les locaux, rencontré les équipes d'Erika Lust, et le soir de ces rencontres dans les bureaux, il y a eu une projection en public de porno. C'était très étrange, je me suis retrouvé dans une salle de cinéma. À côté de ta collègue, et plein d'autres gens professionnels journalistes comme toi, qui regarde un porno comme ça, tranquille. On débat en famille, mais presque.
Ouais.
Et c'était un peu chelou, je dois le dire. Mais en fait, les films d'Erika sont tellement beaux que c'est pas que tu oublies que tu regardes un porno parce que, ouais, ça se voit quoi.
Ouais.
Il y a que des parties génitales sur l'écran. Mais c'est vraiment très très beau. Donc tu peux aussi te concentrer sur les détails, la façon dont les peaux sont éclairées, etc.
Ouais.
Tu es aussi excité par la situation, je pense, mais c'était assez étrange comme expérience. Mais j'ai adoré la vivre parce que je sais très bien que c'est de l'ordre de l'extraordinaire. Je ne vais pas refaire ça.
Bien sûr.
Aussitôt, c'est pas mon délire personnel.
Mm.
Mais je me suis dit, ah, bah, c'était marrant à faire.
Ouais, ouais, bien sûr.
Maintenant, c'était pas sur ma bucket list, mais je suis content de l'avoir
ouais.
fait.
Ouais, bah, surtout dans ce cadre-là, je sais pas, je trouve ça assez ouais, extraordinaire, comme tu dis.
Mais j'ai vraiment fait des trucs de fou. Parfois, j'y réfléchis, je me dis. Il y a une époque, je suis pigé pour têtu pendant 3 ans,
ouais.
et il y a une rubrique qui s'appelait « J'ai testé pour vous », quoi.
Ouais.
Toute première fois, je crois que ça s'appelait. Et il m'avait envoyé dans un sex club, il ouais. m'avait envoyé dans des trucs random, et je l'avais fait. Et justement parce que j'étais giga coincé, ce qui faisait marrer mon red chef. Bref,
okay.
c'est une autre histoire. Et je me dis parfois, mon Dieu, mais heureusement qu'il fait ça quand j'étais encore jeune et insouciant, parce qu'aujourd'hui, je pense ouais. que j'en serais pas capable, j'aurais ouais. trop de pudeur, je ouais. serais trop gêné et tout.
Je comprends.
Et plutôt dans ma carrière, ben, je pense que j'étais plus désinvolte et inconscient.
Ah oui, oui, je comprends tout à fait. Moi, j'étais
oui, okay,
plus inconsciente quand j'étais jeune aussi. Maintenant, il y a plein de trucs que je ferais plus par pudeur, ouais, par, je sais pas, ça me
par
dit moins.
Peur, enfin, ouais. Mais... Non, mais je comprends. Voilà, tout ça pour dire oser, enfin, tout ça pour dire aussi oser faire des choses pour la toute première fois. Pas forcément sexuelle, évidemment, hein. Mais je pense que c'est toujours cool de se lancer dans des choses pour la toute première fois.
Mais cela dit, quand Inès a reçu le mail, Inès et Charlotte ont reçu le mail d'Erika Lust, à la base, Inès, elle m'avait demandé si je voulais venir. Bon, j'étais pas là, j'étais pas à Paris, donc je pouvais pas, mais j'étais archi partante. Moi, je l'aurais grave fait, ça. Pour le coup, c'est pas du tout un truc qui m'a... Je pense que j'aurais pas du tout été gênée. Et, ça m'intéresse, même si je suis pas du tout... en fait, en soi, je suis pas du tout consommatrice de porno, en général. Mais... je suis d'accord que l'occasion et l'opportunité étaient tellement uniques que franchement j'aurais sauté sur l'occasion.
Unique,
unique. j'aurais grave sauté sur l'occasion parce que je trouve ça hyper intéressant de voir ça et en plus je connaissais les productions Erika Lust de nom et peut-être que j'avais vu quelques extraits parfois de temps en temps je pense. Mais ouais, hyper chouette. C'est trop bien ce que vous avez fait.
Mais merci. Je réfléchis et je crois que Erika Lust nous racontait aussi que, en fait, donc c'est des plateformes qui sont payantes. Ses productions sont sur des plateformes payantes, mais elle met des extraits, voire certains courts-métrages
ouais.
disponibles sur des sites, des gros sites de streaming en fait, des tubes généralistes,
ouais.
dont on n'a même pas besoin de citer le nom que vous connaissez sûrement.
Ouais.
Et voilà. Mais évidemment, seulement si vous êtes majeur. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Rappelons les choses. En tout cas, merci beaucoup pour tes kiffs,
merci
Ariane.
Merci beaucoup à toi, Anthony.
Merci Fanny
super.
Pour l'enregistrement.
Oui.
Et la réalisation, et le montage, tout ça, tout ça. Merci Marie-Stéphanie. Je parle à une chaise vide, mais l'intention est là. Et merci LLM Cœur. Lâchez des commentaires, lâchez des 5 étoiles
on
sur le podcast, sur Spotify, etc. Mais en avion-nous, je ne crois pas.
Bonjour, jamais. Bref, ah, attends, la prochaine fois.
Il fallait me le dire, Ariane.
Ah, bah, désolé, j'ai
oublié. Il fallait me le dire.
J'ai oublié.
J'en ai pas. Donc voilà. Voilà. Mais lâchez-moi des commentaires, en fait. Sinon, j'oublie les commentaires. Voilà.
Ok.
Vous avez ce que vous méritez. Bisous!
Gros bisous, merci beaucoup! Ciao!